La circoncision est mentionnée pour la première fois en Béréchit 17.9 à 14, lorsque Abraham devient Abraham, qui reçut dans son cœur le souffle de Elohim. Techniquement, c'est l'ablation du prépuce du mâle. Cet acte est décrit en Béréchit 17.24. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce mot provient du verbe hébreu « moul », même « vav lamed », qui veut dire « circoncire », « couper autour », « couper court », « retrancher ». Même, c'est la formation. Vav, la droiture, lamed, l'existence. Nous avons donc la formation de la droiture de l'existence. C'est le nettoyage. Le mot incirconcis, en hébreu, harel, qui veut dire exposer, dépouiller, être non récolté. Hain, c'est la source. Resh, la pauvreté. Lamed, l'existence. Donc, c'est la source de la pauvreté de l'existence, c'est-à-dire la misère. En Shemot 4.25, nous lisons selon la traduction standard, Séphora, l'épouse de Moïse, prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Littéralement, depuis l'hébreu mot à mot, nous avons « Elle aura pris, Tsipora, la femme de Moshe, une pierre. Elle aura coupé elle-même prépuce du fils. Elle aura touché pour marche à moi, Hachem, de lui. Elle aura dit « Parce que, époux, il a attendu de moi, toi, Hachem. » Il s'agit donc de retrancher le mal et de nettoyer et purifier l'âme. Il est indiqué que c'est la femme qui circoncit son fils spirituel, son mari qui est incirconcis, et ceci avec une pierre lapidaire. C'est elle qui transmet la connaissance de la Torah de Hachem telle que mentionnée par le verset grec en Matthieu 1.18, dont nous parlerons plus tard. En Shemot 4.24, nous lisons selon la traduction standard, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Littéralement, nous avons « Il, le fils, aura été par un chemin, par un endroit sombre. Elle aura rencontré elle, Hachem. Elle aura recherché. Il pleurera. » Ensuite, c'est le mari qui fait circoncire son fils physique 8 jours après la naissance de son enfant génétique. La Torah indique que la circoncision est le signe inscrit dans la chair de l'alliance avec Hachem. C'est un signe divin, distinct de tous les signes des humains ignorants et de tous les signes des humains idolâtres. Sa portée dépasse le niveau de la chair apparente qui ne reçoit que le reflet projeté du résultat d'un processus nourricier spirituel qui a lieu dans le cœur et dans le mental, au milieu même des cellules. La circoncision des actes et de la parole. C'est le signe concret et physique, externe comme interne, de la connaissance des qualités de la sagesse, de la piété, de la compassion, de la miséricorde, de l'amour et de la charité, et donc des plus hautes lois de la survie de la création du Créateur pour un point de vue localisé au niveau de l'être humain, de son corps et de son âme. La circoncision de la chair amène intrinsèquement à celle de l'âme, à moins que celle-ci ne soit trop mauvaise. La circoncision de l'âme, même mauvaise, mais devenue bonne, amène inéluctablement à celle de la chair. La circoncision du cœur et du mental, c'est l'ablation du mal qui rend arrogant et intransigeant, sans compassion et sans miséricorde, c'est-à-dire xénophobe, discriminatoire, antisocial, psychopathe et assassin, ou plus simplement, méchant. Se soumettre à la doctrine circoncit le cœur pour faire le bien en rejetant le mal, ce qui amène à circoncire la chair. La Torah, qui demande à ce que ce seul signe soit inscrit dans la chair, attire l'attention sur l'importance non pas de la marque visible faite par l'homme qui peut la falsifier, mais de sa réalité invisible. En Dévarim 10.16, il est écrit « Vous circoncirez votre cœur et vous ne raidirez pas votre cou. » En Dévarim 30.6, il est écrit « L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. » En Corinthiens 7.19, il est écrit « La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des lois de Dieu est tout. » En Philippiens 3.11, il est écrit « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. » En Matthieu 15.18 et 19, il est écrit « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. » En Ézéchiel 11.19 et 20, il est écrit « Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps de leur cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. » Le prépuce est un bout de chair similaire à un bout de pain levé mou et moelleux, le hametz. L'alliance de la circoncision est fondamentalement liée à l'agneau pascal, au pain azim et aux herbes amères. La chair de l'agneau, kébès, où circulait le sang, est la force de la pureté. C'est le muscle, le mouvement, le souffle, c'est l'âme. Le pain sans levain, la matzah, c'est la vérité sans histoire et sans sornette. Ce sont les os, les articulations, la direction. C'est le corps. Les herbes amères sont le pluriel du mot « maror » et cette racine verbale signifie « changer », se disant d'une chose qui rend triste de l'injuste affliction et en colère de l'infâme oppression. Une lettrique de ce mot, composée des lettres « mem »,« resh », »,« resh » serait « transformation du mental incarné ». Le maror est ainsi un catalyseur qui transforme la pensée et la réflexion. Maror peut se lire même resh resh, c'est-à-dire service de la création. Ce mot provient de la racine même resh, qui signifie laisser tomber le faux ou abandonner le mensonge, et donc les choses et les habitudes mauvaises. La notion de désapprobation à la vue de la calamité et du crime, si on est bon, ou à la vue de la compassion et de bonté, si on est mauvais, se rapproche de la connaissance qu'apporte la consommation de l'agneau pascal avec du pain sans levain qui nourrit les organes et des herbes amères qui nourrissent les nerfs. La différence entre les mots « hametz » et « matzah » est que dans le premier, il y a un « chet », la créature, au début, et dans le deuxième, il y a un « e », le souffle. La racine « mem tsadé » signifie obtenir un résultat, atteindre un but, et c'est en l'occurrence extraire le mal, et donc l'oppression de la créature qui fait que les choses vont mal. Tout comme avec l'étude, il y a un temps pour l'effervescence de la découverte et un temps pour la réflexion, et celui qui progresse rapidement le fait toujours avec hâte. La Torah précise entre autres choses que la consommation de l'agneau est réservée à ceux qui sont circoncis, de chair comme de cœur, et que toute la journée de Pessah, on ne doit pas sortir de chez soi. Car la sortie de Mitzrayim et les choses comme le passage à travers les eaux et le voyage dans le désert sont des phénomènes intérieurs et spirituels, et non pas extérieurs et matériels, au sens commun du terme, bien que la biochimie soit tout à fait physique, mais invisible. Alors ce n'est pas que les incirconcis n'aient pas le droit d'en manger, car ils peuvent manger de la viande, mais que seuls les circoncis ont la capacité de consommer cet aliment spirituel. Pourquoi celui qui mangera du pain au levain durant Pessah sera-t-il retranché? Parce qu'il sera happé par les idoles des faux cultes qui l'attireront dans l'ignorance servile des histoires mensongères où l'ablation du mal est malheureusement confondue avec l'amputation du bien, car il y a absence de discernement. Les animaux ne pratiquent pas la circoncision. Ils mangent, ils se reposent, ils travaillent, et parfois ils soignent de manière rudimentaire, et ils savent même un peu parler et cuisiner ou calculer, entre autres exemples. Mais aucun ne pratique volontairement un acte chirurgical non médical dans le but déterministe. En Bereshit 17.14, il est écrit « Un mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura rompu mon alliance. » Littéralement, depuis l'hébreu mot à mot, il est écrit « Et incirconcis, un mâle qui ne circoncira pas sa chair, il sera considéré comme incirconcis. Elle circoncira l'âme, elle, à cause du peuple à moi et à elle, son alliance avec moi, elle a été rompue, séparée. » Il est indiqué que c'est le peuple qui est responsable de maintenir l'alliance, et donc de circoncire l'incirconcis. Incirconcis veut dire inutilisé. On peut noter que la circoncision de l'âme est considérée comme supérieure à celle de la chair et s'y substitue en cas de nécessité, car une fois l'âme circoncise, l'alliance est effective et réparée, même si la chair ne l'est pas encore, et cette réparation entraînera la circoncision de la descendance directe, génétique, ou indirecte, l'enseignement. Parce qu'Abraham a été circoncis dans son cœur grâce au souffle et, devenant ainsi Abraham dans sa chair, la Torah n'ordonne pas de refaire l'alliance, mais de circoncire tout mâle qui ne l'est pas. Le texte indique clairement que c'est l'Éternel qui a circoncis Abraham et que l'injonction donnée fut de circoncire la chair de sa descendance et les mâles de sa maison, lui-même ayant été circoncis, devenu Abraham. Couper son prépuce était inutile puisque le sectionner a pour but d'obtenir la circoncision de l'âme. L'idéal est donc que la chair soit circoncise au temps du 8e jour de vie après la naissance, car sinon c'est le peuple qui doit fournir le travail aboutissant à la circoncision de l'âme afin de réparer ce qui a été rompu par le peuple à cause des actes mauvais du peuple et de la transgression des lois par le peuple, et pas seulement des parents. Le deuxième fils, Isaac, et les suivants sont circoncis, mais pas Ismaël, parce que si effectué avant ou après l'âge de 8 jours, la circoncision de la chair n'est pas valide pour l'alliance. Elle ne provoquera pas une facilitation de la circoncision du cœur, et elle obligera les serviteurs de Hachem à l'effectuer afin que le prêtre, qui ne peut pas l'être, le devienne. Tous les fils mâles d'Israël circoncis sont par définition des prêtres, en devenir. Les lois sur ce sujet, qui relèvent du cœur de la doctrine, sont plus ou moins complexes selon le statut du Kohen, ou du Kohen Gadol, c'est-à-dire un lévite descendant de la lignée d'Aaron chargé, comme tout israélite, de transmettre et d'enseigner la Torah. Le mot Kohen, composé des lettres Kaf et Nun, a pour lettrique « élan du souffle nourricier ». Et telle est la fonction de son service. Le rôle des Kohanim, statut réservé au mâle de par la naissance ou de par l'action révélatrice du don de la Torah, est de gérer la construction des éléments du temple et de les entretenir, le temple étant le corps humain. La fonction du Kohen relève de facultés spéciales au même titre qu'un tel a plus d'intelligence qu'un autre, qui a plus de force que celui-ci, qui est plutôt doué pour quoi que ce soit d'autre. Il ne s'agit pas de connaissances ni d'entraînement, mais d'aptitudes spécifiques à certains hommes. Ainsi, lorsqu'il est écrit qu'un Kohen doit faire ceci, c'est qu'il en a la possibilité, et que s'il ne le fait pas, c'est comme s'il perdait son temps et qu'il dépérissait. De même, lorsqu'il est écrit qu'il ne peut pas faire quelque chose, c'est parce qu'il n'en a pas la faculté, ou que s'il fait cette chose, alors il en sera blessé d'avoir fait ce pour quoi il n'est pas fait et n'en retirera pas de bénéfice. Pareillement, qui n'est pas Kohen et voudrait accomplir un commandement réservé au Kohen n'obtiendra aucun résultat et pourra éventuellement se nuire. Il est écrit en Vaïkra 21.9, dans la traduction classique, « Si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père. Elle sera brûlée au feu. » Littéralement, depuis l'hébreu mot à mot, nous avons et une fille d'un homme adulte, qui est un Kohen, lorsqu'elle sera blessée à cause de l'infidélité, c'est-à-dire l'affliction de la trahison, de son père, c'est-à-dire chez qui elle vit, c'est-à-dire qu'il ne l'aime pas et se comporte mal avec elle, voire la maltraite. Elle, tu la libéreras, c'est-à-dire en lui donnant un bonhomme pour mari afin qu'elle quitte son père. Avec du feu, de Shah, elle sera en feu, c'est-à-dire embrasée, amoureuse. Le mot « infidélité », qui a aussi le sens de fornication inapplicable à la structure de ce verset, possède le sens d'abandon, car « zayn nun tav » veut dire « abandonner ». Et comme l'absence du « vav » dans le verbe, dans le verset, est là pour indiquer que l'abandon est la rupture de la communication, cet abandon provient de l'infidélité, de la trahison. Plus précisément, il est dans le contexte question ici de l'infidélité à la doctrine de la Torah. Comme ce Cohen est méchant alors qu'il connaît la Torah, il a fait son choix. On ne peut rien pour lui. Tenter de le raisonner est pure perte de temps qui causerait des ennuis. Parce que finalement, que veulent généralement les pères pour leurs filles, sinon des gars comme eux? Des gars qui conçoivent les choses du monde plus ou moins de la même manière. Concernant la notion de ne pas raidire son cou, elle fait référence à briser la nuque. Briser la nuque, ça veut dire dompter le mental. Les mots hébreux traduits par nuque, Rein Reshpe et Génis, Rein Gimel Lamed E, désignent le mental et la jeune femme, le mental obtus et récalcitrant de la jeune femme insoumise. Briser la nuque de la génisse, c'est briser ou renverser le mental de la jeune femme têtue. Il en est de même pour le jeune homme, le jeune taureau. Il est écrit en Shemot 13.13 « Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. » Racheter, ça veut dire libérer par l'éducation. Briser, ça veut dire lapider, ça veut dire parler, ça veut dire éduquer. En Shemot 34.20, il est écrit « Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils, et on ne se présentera pas à vide devant moi. » Avide veut dire en vain, sans but. La nuque, c'est ce qui soutient le mental, c'est les opinions. Une opinion, c'est le contraire du savoir, avec la vanité de croire que l'on sait quelque chose au sujet de ce dont on ne sait rien, mais qu'on a décidé d'être telle ou telle chose sans pouvoir l'argumenter et le démontrer ni admettre la vérité en cas d'erreur. Un peuple à la nuque raide, mentionné en Shemot 32.9. C'est un peuple orgueilleux et arrogant qui ne veut rien savoir et qui pratique les crimes et les injustices. En Actes 7.51, il est écrit « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Donc, briser les illusions et les opinions arbitraires du faux mental est le but de la lapidation, sans détériorer les cieux du mental et la terre du corps, pour révéler le vrai mental, la personnalité fondamentale, en modifiant et en corrigeant les données, sans toucher au logiciel et encore moins à l'ordinateur, grâce aux interactions de l'action du verbe. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de toucher au corps, ni de blesser. Le verset Devarim 21.4 concerne la jeune femme non mariée et l'homme ignorant, et ce sujet concerne le sacrement du mariage. Littéralement, nous pouvons lire mot à mot Devarim 21.4 « Des sages de la Torah rapprocheront le petit de l'âne. La petite de la vache sera formée auprès de lui avec flux continuel, pour ne pas il produira pour lui et ne pas il plantera pour lui. Ils répandront la Torah alors auprès de la petite vache dans flux de paroles. » Ce verbe briser, qui vient de l'hébreu haraf, qui signifie faire plier, laisser tomber, faire couler, est composé des lettres rein, l'apprivoisonnement, resh, l'incarnation, paix, l'expression. Ce verbe veut donc dire apprivoiser l'incarnation de l'expression, c'est-à-dire dompter. Le mot génisse vient de l'hébreu regla, qui provient d'un verbe qui signifie tourner, ou d'un mot qui veut dire rond, est composé des lettres rein, la source, gimel, le mouvement, lamed, l'observation, et le souffle. C'est donc la source du mouvement observant le souffle de vie, c'est-à-dire le mental qui est jeune et novice et qui ne sait pas tourner. Dans les exposés précédents, il a été mentionné le talion, œil pour œil, dent pour dent, qui correspond à la formation du couple. Il a été également mentionné la lapidation, c'est-à-dire envoyer des œuvres pour éduquer et réformer, et libérer du mal. Ce qui nous amène à la notion de punition de mort. La punition de mort signifie en fait libérer le bien du mal. En Vaikra 17.11, il est écrit « Car l'âme de la chair est dans le sang, et moi je vous l'ai mis au-dessus sur le trône au lieu de ferveur, pour apaiser, pour vos âmes, car il est le sang, il fera l'apaisement de vos âmes. » Il est question ici du chauffard qui fait vibrer le liquide des ventricules cérébraux. En Vaikra 20.27, il est écrit « Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera à eux et leur sang. » En Bamidbar 15.35, il est écrit « L'Éternel dit à Moshe, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera à l'écart du groupe. » En Devarim 24.16 à 18, il est écrit « Ne seront pas mis à mort les pères à cause des fils, et les fils ne seront pas mis à mort à cause des pères. On fera mourir chacun pour ses fautes. Tu ne porteras pas atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin, et tu ne garderas pas en gage le vêtement de l'aveugle. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et que Hachem ton Elohim t'a racheté de là-bas. C'est pourquoi je t'ordonne de mettre en pratique ces commandements. » Il s'agit de la mort de l'acte, pas des responsables, car tel est le but de la Torah, faire mourir le mal, et non l'être vivant. Le sang, c'est l'âme. À eux et leur sang veut dire que leurs âmes sont leurs propriétés, et que parce qu'elles sont égarées, elles doivent leur être rendues, et non pas dérobées à nouveau après avoir été dérobées par le mauvais penchant, le Yetzer Hara, l'archétype du mal. Le sens du verbe « mettre à mort » lorsque tuer est interdit n'est rien d'autre que la réforme des esprits abîmés et tordus par le mal qui agissent mal volontairement comme involontairement à cause de la contagion de la folie. Nous avons deux mots distincts en hébreu, ratsar et mout. Ratsar veut dire tuer, assassiner. Ce mot est composé des lettres resh, le mental, le changement, la solitude, le cycle. Tsadé, la destinée, la justesse, l'appui. Ret, la vitalité, l'équilibre, le soutien. Ce qui nous donne le changement de la destinée de la vie, c'est-à-dire le meurtre. Mout veut dire mourir, faire mourir, cesser. Ce mot est composé des lettres mem, qui est la formation, transformation, vav, qui est la lumière, la communication, et tav, qui est l'aboutissement, la matière, ce qui nous donne la transformation de la communication matérielle, c'est-à-dire l'initiation. Faire mourir, être puni de mort ou être mis à mort concerne l'élimination du mal en faveur du bien en cessant le mal. C'est rétablir l'interaction, l'échange et l'expression afin de restaurer l'affinité, la réalité et la communication. Ceux qui refusent de communiquer et qui mentent créent la folie et le crime dans le monde. Tel est le travail de la mort. Tuer le bien et faire mourir le mal sont deux choses complètement opposées. En Shemot 20.13, il est écrit « Tu ne tueras pas ». En Bamidbar 35.19, il est écrit « Le vengeur du sang, lui, fera mourir le meurtrier. Quand il le rencontrera, lui le mettra à mort. » Dans le premier cas, le verbe « ratsar » composé des lettres Resh, Tzadé, Chet, c'est tuer la vie. Chet, Yud. Dans le Chet, placé au début de ce mot, est placé à la fin du verbe tuer, pour marquer la mise au terme de la vie, le meurtre. Le bien étant la vie, c'est tuer le bien, et le Resh étant celui du mal, Ra. Tuer le bien et la vie, ce qui manque au mal, c'est mal. Dans le second cas, Mout, composé de Mem, Vav, Tav, c'est mettre à mort le mal qui est le mécanisme meurtrier, et non l'être lui-même qui a causé l'acte. Car le Tav est celui du bien, Tov. Et le mal étant la mort, et comme la mort et faire mourir ont la même racine hébraïque, pour montrer que c'est le mal qu'il faut mettre à mort, puisque le Tav en fin du verbe indique que mettre un terme au bien, c'est mal. Alors faire mourir le mal, ce qui manque au bien, c'est bien. Ce verbe est à la fin du verset Bereshit 3.3 pour désigner la finalité de l'ingestion du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et bien qu'Adam et Ava aient consommé le fruit, ils n'en sont pas morts d'une mort physique. Ils sont morts à l'ignorance, trop vite, car ils ne sont pas prêts, car ils ne sont pas instruits. L'interdiction n'est pas parce que le fruit serait mauvais, car il est bon, mais parce que le fruit est une portion de l'arbre. Il ne faut pas le séparer, c'est-à-dire tendre la main et manger de l'arbre de vie, c'est-à-dire agir dans le but de prendre la vie d'autrui grâce à la connaissance. Ainsi il est écrit, littéralement, « Mais du fruit de l'arbre qui est comme séparant le jardin, il a dit, Elohim, ne pas, elle, puis ils, mangeront, quelques portions de lui, de l'arbre, parce que ne pas, elle, puis ils, faire du mal à lui, de peur que elle, puis il, mourrait. » Le rôle de la Torah est la réparation de cette séparation grâce au bien rendu à l'arbre. La peur que Adam et Ève mangent du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal provient du fait qu'il est préférable de faire le bien sans avoir la nécessité de faire mourir le mal, ce qui est du travail supplémentaire et fastidieux, mais vital. Parce qu'on devient ce qu'on mange, et parce que la mort à l'ignorance implique la libération, ce qui oblige à la responsabilité de la connaissance, et donc le choix d'agir bien malgré les fautes, malgré les intentions, et malgré le mal. Pour ne pas tuer, mais faire mourir le mal et réveiller le bien. On pourrait croire que tuer enlèverait le mal, mais ce serait en même temps enlever le bien, ce qui est mal. Assassiner n'enlève pas le mal, ça l'augmente. Blesser volontairement, c'est commencer à tuer, et c'est interdit. Mais il y en a toujours pour croire qu'ils en ont le droit, sans avoir le droit de rendre des comptes devant une instance judiciaire qu'ils croient être. La Torah stipule en toute logique que lorsque quelqu'un adulte cause la mort de quelqu'un, d'autre, en cas d'accident, lorsqu'il ne se querellait pas et qu'il n'a pas voulu cela, il est innocent, tout comme les enfants sont tous innocents par définition. Ainsi, la peine capitale de mort physique est donc non seulement interdite, même en cas d'acte volontaire, mais l'exécuter ou demander à qui que ce soit de l'accomplir par délégation sournoise, c'est enfreindre toute la Torah et la vie, car l'être humain ne peut jamais être certain de la culpabilité au sein de la piste de la contagion du mal. Ce qu'on appelle la pureté, c'est l'indépendance à la matière. Être pur, c'est utiliser la matière. L'impureté, c'est la dépendance à la matière. Être impur, c'est être utilisé par la matière. L'impureté, c'est quelque chose qui ne devrait pas être là, qui n'est pas à sa place, qui gêne et qui obstrue. Par exemple, lorsqu'on marche sur une route de terre, on se retrouve couvert de terre, de l'impureté, rien d'autre, et ce n'est en soi ni bien ni mal, mais ça détourne l'attention et ça distrait, et alors on peut, selon les circonstances, faire des erreurs plus ou moins graves ou pas. La pureté, c'est faire attention et enlever autant les impuretés extérieures que les déchets cellulaires internes, grâce à l'usage du jeûne, des plantes médicinales et de la pensée juste, honnête et bienveillante, dès qu'on les remarque, par quelque sens de perception que ce soit, ou dès qu'on en est informé. C'est par exemple la conséquence de se laver avec de l'eau et du savon. Le mot « pur » se dit en hébreu « tahor », « tête même aleph », qui donne le mot « tahara », « tête même resh » et « qui veut dire propre, adapté. Tahor, tête même aleph, c'est le refuge du souffle incarné, c'est-à-dire distant avec la matière. Tamé, tête même aleph, veut dire impur, impureté. Il donne le mot touma, tête même aleph et, ce qui est sale, inadapté. Tamé, tête et resh, c'est le refuge du service de la création, c'est-à-dire attaché à la matière. Ce qui est pur réceptionne la lumière sans entrave, alors que ce qui est impur nécessite du travail afin de le rendre propre pour que l'obstruction ne bloque plus la lumière et l'énergie, tout comme une fenêtre sale doit être nettoyée. Ces deux mots, qui concernent la spiritualité, commencent par la lettre tête, afin de montrer que ces deux choses sont finalement les deux aspects de la beauté. La pureté, ce qui est adapté, résulte du souffle activant le mental, et resh, qui crée une harmonie électromagnétique. L'impureté nécessite la transformation de l'espace, même aleph, qui est un état de disharmonie, de dissonance et de désaccord. C'est seulement et uniquement cela la sainteté, la kedusha, et c'est important et vital pour le corps organique comme pour l'esprit ou le mental. Ainsi, tout comme les bulles de savon nettoient le corps, l'effervescence du souffle nettoie l'esprit, et en aucun cas cela ne présume de la bonté ou de la malveillance. En Vaïkra 15, le chapitre décrit les lois de cause à effet et les choses à faire au sujet des flux non voulus émis par l'homme en cas d'éjaculation involontaire, et par la femme en cas de menstruation. Tel est le sens de la pureté et de l'impureté, l'effet de l'organisation volontaire des choses ou de leur survenue involontaire. Il est écrit en Vaïkra 15.2 à 3, « Parlez aux enfants d'Israël et dites-leur, tout homme, Ish, c'est un homme adulte, pas un adolescent, qui est donc marié ou qui a été marié, et donc qui a eu des relations quel que soit son âge depuis la puberté. Tout homme qui a une perte séminale involontaire est par là même impur, c'est à cause de sa gonorrhée, incontrôlée et involontaire, qu'il est impur. Que sa chair laisse couler son flux ou qu'elle le retienne, il est impur. La Torah précise qu'il est impur pendant 7 jours. Concernant la femme, nous avons les versets qui commencent en Vaïkra 15.19. La traduction standard est la suivante. La femme qui aura un flux de sang dans sa chair, restera 7 jours dans son impureté, quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Littéralement, depuis l'hébreu mot à mot, nous avons « Et lorsqu'une femme mariée, qui elle produira écoulement du sang, il se produira du sang dans son corps à elle. » Il est question ici de production organique, ni de blessure, ni de saignement de la peau. Donc, lorsqu'il se produira du sang pendant 7 jours, c'est la durée de la production interne, elle produira pour indiquer impureté à elle, c'est-à-dire depuis l'apparition du flux jusqu'après sa fin. L'écoulement est pour indiquer la présence de ces ondes de retranchement ou hormones. Et tout objet qu'elle a touché, à cause du chaos, sera impur jusqu'au soir. Le chaos, c'est un chaos électromagnétique, le chaos du champ vital. Au verset 20, la traduction standard est la suivante. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Littéralement, nous avons « Et tout objet également, elle s'allongera sur lui, à cause de l'impureté à elle, il sera impur. Et tout objet également, elle s'assiera sur lui, il sera impur. » Au verset 28, il est écrit « Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera 7 jours, après elle sera pure. » Littéralement, alors, lorsqu'elle n'a pas été pure, c'est le début du flux, elle comptera pour elle 7 jours, durant et après elle sera pure. Le verset 29, le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons, et elle les apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation. Littéralement, depuis l'hébreu mot à mot, nous avons « Alors pendant jour, le 8e, elle prendra pour elle, pour se fortifier, et pas seulement pour le plaisir, succession de désirs, double, enfant, lui et elle, de l'amour à elle, qui a formé le couple. Elle s'offrira, c'est-à-dire à son initiative. Ils ont consenti, mutuellement. Ceci parce que le serviteur de Dieu, allant vers ouverture, il a éclairé couple. Le but de la Torah de Hachem de Elohim est d'instruire sur le sujet et sur les éléments de la survie optimale dans tous les domaines de la vie, par la réduction du mental et par l'accroissement du bien. Il est demandé de choisir le bien et de vivre parmi les vivants, et non parmi ceux qui fabriquent la mort. Il est écrit en Devarim 30.15 « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie, et le bien, la mort et le mal. » Le mot « vie » qui est employé dans le verset hébreu est en fait un pluriel, et il signifie « les vivants ». Le bien étant ce qui fait vivre. Le mot « mort » en hébreu est un singulier dans le verset. Concernant le mal, c'est la fin prématurée de la vie dont la durée est fixée par la fusion des gamètes. À cette fin, il faut rejeter le mensonge de ce qui est faux et qui font que les gens agissent de manière incorrecte, inadaptée, inefficace et nuisible. C'est-à-dire les idoles, qui ne sont que des canulars symboliques que les gens aiment et entretiennent par ignorance, par faiblesse ou par convoitise. Les médiums, qui grâce à leur tour de passe-passe plus ou moins élaboré font croire aux individus et aux groupes, en la vie après la mort, qui n'existe absolument pas sinon dans le souvenir et dans les archives des renseignements, et en la manipulation de la destinée par des êtres supérieurs tels que des fantômes, des anges ou des aliens, qui ne sont rien d'autre qu'eux-mêmes. Et les mauvais actes volontaires et involontaires qui causent directement comme indirectement les blessures physiques comme mentales et émotionnelles, portant généralement et inéluctablement atteinte à l'intégrité de la vie. Le mal et la souffrance mortifère engendrés par la convoitise et par les actes aberrés ou malveillants de soi et d'autrui, qui ne sont pas souhaitables car contre la survie. C'est l'ignorance et les artefacts du mental irrationnel erroné et vérolé par l'inné et par l'acquis. Le bien est dans la mesure du possible la vie libérée de la méchanceté, des réactions incontrôlées, des fautes et des tourments. C'est être vivant. Les mots mal et bien sont composés en hébreu de 2 et 3 lettres pour montrer que le bien est globalement plus important et plus fort, même si on croit le contraire. Le mot mal en hébreu ra, resh hain. C'est la solitude de la conscience, c'est l'indépendance de la croissance, c'est la meurtrissure de l'isolement. Le bien, tov en hébreu, composé des lettres tet, vav, bet, c'est le foyer de la lumière du temple, c'est la sagesse de l'expression de la volonté, c'est la bonté de l'interaction. La directive est de choisir la vie et de ne blesser ni tuer qui que ce soit de quelque manière que ce soit. Faire mourir le mal, c'est enlever la souffrance en réformant et en réparant l'individu afin qu'il souffre moins et qu'il cause moins de mauvaises actions, que ce soit consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, par erreur ou par choix, ou encore manipulé par des méchants comme par des événements. La doctrine enseigne à l'aide des lettres chromosomiques qui contiennent tous les potentiels humains du premier jusqu'au dernier, à savoir ce qu'il faut faire et à savoir ce qu'il ne faut pas faire, pour que les choses aillent bien et mieux et se réparent lorsque cela est possible. Le véritable nom de la religion de Dieu, c'est la doctrine de la Torah, ou tout synonyme ou traduction de cette expression, car lorsqu'on parle de doctrine, on parle de religion, ou encore de l'attachement à la loi de la Torah en l'occurrence, et plus généralement de l'attachement à l'honnêteté et à l'intégrité, et donc à la bonté et à la justice, qui sont la compassion et la protection de la vie en toutes circonstances. C'est l'attachement à la loi en vigueur, non pas seulement humaine, mais universelle, qui crée la véritable, stable et solide religion de paix à laquelle on est dévoué en toute liberté, quels que soient les modes culturels du groupe bienfaisant dont on dépend. L'attachement à une fausse religion, et donc à des organisations qui créent des lois, des coutumes et des œuvres qui ne respectent pas les bonnes lois et qui fabriquent inéluctiblement des crimes et des guerres, enchaîne, trompe et tue. Selon le texte source des divers courants religieux du livre, et tel qu'indiqué dans les textes s'y référant, Dieu n'a aucun autre but ni aucune autre volonté que le libre arbitre et le bonheur de l'être humain. Et c'est pour cela qu'il a donné la loi, pour obtenir ça. Tout celui qui viendrait dire que la volonté du Créateur de l'univers et de la vie est autre, et qu'il la connaît, et que puisqu'il a le pouvoir de transgresser la loi, alors c'est que Dieu lui en donne le droit, n'est qu'un imposteur, un menteur et un mécréant mal intentionné, perfide, fourbe et hypocrite, dont les seuls intérêts sont le régal du plaisir, le gain de l'argent et le pouvoir de la domination dans leur forme pervertie. Ce n'est pas Dieu qui autorise le mal, mais l'homme à qui Dieu a donné le choix d'action. Le chapitre 22 de Béréchit mentionne le sacrifice d'Abraham. 22 s'écrit en hébreu « Kaf Bet », c'est-à-dire la main qui soutient le temple. Cette racine a le sens d'écrasement, et une électrique serait « force de volonté ». Donc en Béréchit, chapitre 22, verset 1, il est écrit dans la traduction classique « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, et il lui dit « Abraham ». Et il répondit « Me voici ». Littéralement en hébreu mot à mot, nous avons « Il, Hachem, aura dévoilé ensuite les paroles » c'est le livre d'Evarim « les paroles de l'affliction, lorsque le souffle de Elohim, il a prouvé la vérité de la doctrine, avec Abraham, la circoncision du cœur. Il aura dit à lui, Abraham, il, Hachem, aura dit le pouvoir de lamentation. Il s'agit de la lamentation vis-à-vis de la désolation engendrée par le mal dans le monde des humains et dans notre monde personnel. La traduction classique du verset 2 est la suivante. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Littéralement, nous avons. Il aura dit, offre maintenant ton enfant à toi, ton unique à toi, c'est-à-dire le premier, que tu as aimé, ton Yitzhak. Il vient, toi aussi viens vers la terre de Moria. Il aura été élevé en cet endroit, lorsqu'il a élevé, parce que il a unifié les montagnes, comme il a dit à moi, Moshe, et à toi, l'exalté. Les montagnes en hébreu signifient les choses qui engendrent. Le mot Yitzhak signifie celui qui est joyeux, et une électrique serait germe de l'élan vital illuminé, ou impulsion de la destinée honnête et sage. Cela fait référence à la règle numéro 31 du Sefer Shelomo, les proverbes de Salomon. Le mot Moria signifie montrer, enseigner, instruire, élever Yah, et une électrique serait formation de l'unité du mental libéré par le souffle ou origine de la communication du cycle du germe du souffle. C'est l'archétype du groupe social formé par ceux qui offrent leurs œuvres en affliction au nom de l'éternel Hachem, Yud Evav-E. Rashi a dit que c'est le lieu où Israël a reçu un enseignement des prophètes. On nomme Amoraïm ceux qui parlent de la Torah, qui l'expliquent et qui la traduisent dans une langue d'époque, ce qui inclut les choses telles que la Mishnah, le Talmud et le Shulchan Aruch. La deuxième et unique mention de ce mot dans la Torah est en Chronique 3.1, en référence à la règle 31. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Moria, qui avait été indiquée à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l'air de Ornan, le Jébusien. Littéralement, il aura réussi, Shelomo, à construire lui-même le temple de Hachem avec Yerushalayim, c'est l'enseignement de la paix, avec montagne de le Moria. En conséquence, nous, les prophètes qui expriment la doctrine, montrerons à l'égard de David Abiyahou, qui a vécu dans le territoire de David lorsqu'il a engendré Ornan, le Yébousi. Abiyahou veut dire Yud Evav E est mon père. Ornan veut dire la lumière a été transmise. Yébousi veut dire descendant du victorieux. C'est le Ouin, le nouveau prêtre des mages. Au verset 3 du chapitre 22 de Béréchit, nous avons la traduction standard. Abraham se levant de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac, Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Littéralement, nous avons « Il aura agi promptement, Abraham, le père de la multitude, pour abandon du mal et du hametz. Il aura dompté les passions, avec effervescence à lui. Il aura reçu la Torah, avec dents ou force. Jeunesse de moi à lui, lui-même parce que de lui, Yitzhak, fils de lui, il aura gagné arbre à moi, fécond. » L'arbre de Hachem, c'est la descendance d'Abraham. Il aura augmenté sa durée de vie. Il sera allé vers le lieu dont il a parlé pour lui le Elohim. Au verset 4, il est écrit « Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. » Littéralement, nous avons « À cause du temps, de l'aide à moi, il aura souffert Abraham » avec les yeux, c'est-à-dire avec l'étude. Il aura vu lui-même le lieu lointain, c'est Israël. La souffrance des yeux en question et le fait d'étudier des livres, cela cause une accommodation plus que lorsqu'on regarde au loin. Il a été démontré que les problèmes de vision étaient plus fréquents chez les lecteurs assidus, chez les travailleurs de bureau et plus généralement chez ceux qui vivent en ville parce qu'ils ne regardent pas assez au loin sur de longues distances de plusieurs kilomètres. Au verset 5, il est écrit « Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, nous reviendrons auprès de vous. » Littéralement, nous avons « Il aura dit Abraham à cause de jeunesse de moi à lui. Il restera parce que compassion, ici, en Israël, avec l'effervescence, c'est-à-dire la nuée ou pluie. Et moi, Moshe, et la jeunesse, nous irons à elle, à Aretz Moria. C'est inlassablement de cette manière que nous et toi aurons vécu, que nous et lui, Yitzhak, aurons donné Eloah de nous. » La jeunesse dont il est question ici, avec le mot Nehacha, où le Yud est la première personne singulier possessif et le Vav, la troisième personne singulier masculin, et dont le dictionnaire définit le sens comme étant « enfant, jeunesse, serviteur », et Sarai, la femme d'Abraham, qui est Mariam de Yosef, et qui avec Abraham devient grâce au souffle Sarah, Shin, Resh, et qui est la princesse. Ce mot veut dire « résider, lutter, délivrer, nourrir ». Une lettrique serait « force du mental qui souffle ». Le mot matza, même tzadé e, signifie ce qui est sans fermentation. Le verbe même tzadé e signifie boire un liquide visqueux. Ce qu'on appelle les commandements du mot hébreu mitzvah, même tzadé vav e, ajoute un vav à la matza, le vav de la communication. Cela nous indique que ce qui est de la matza est ce qui est sans règle concernant le but, même tzadé, du souffle et générateur des choses, même et, qui sont claires et brillantes de joie, tzadé et. Le souffle doit en effet rester neutre, agios, pour la sainte convocation, et non orienté vers une intention de bien ou de mal afin de laisser agir Hachem Elohim en lieu et place de la volonté du désir humain qui est en sens contraire. Ainsi, le potentiel du bien de Hachem peut s'exprimer dans la personnalité de l'être humain en lieu et place de son caractère mal intentionné, pour lequel il trouve en général toujours de très bonnes justifications qui sont selon lui très raisonnables, tout en aimant ses mensonges qui sont les siens et qu'il pense posséder et contrôler, alors qu'en réalité il est esclave et il rend les autres esclaves, tandis qu'ils le maintiennent eux-mêmes dans cette servitude. Ainsi, à Pessah, on mange des pains sans levain afin de prendre conscience et de ne pas oublier que le levain des enseignements que tout un chacun raffole, quel que soit l'âge et le savoir, car ils instruisent et divertissent à l'aide d'histoires et d'interprétations qui peuvent être mensongères, maintiennent dans l'ignorance de la réelle vérité et peut entraîner des choses indésirables telles que les opinions sur les croyances au sujet de ce dont on ne sait rien et qui peuvent faire croire que des imaginations sont la réalité alors que jamais elles existeront. Mitzrayim provient du mot Mem Tzadé Resh au pluriel. Il désigne les tourments, les afflictions, les oppressions, les détresses, les limites, les entraves. Ce mot hébreu non temporel, faussement traduit en une Égypte historique associée à un nom de pays physique créé par les limites fixées par des êtres humains, peut se lire « Contrôle de la destinée de l'esprit ». Le pluriel « Yudmem » ajouté après « Mem Tzadé Resh » indique que ce contrôle n'est pas effectué par un individu sur lui-même, mais résulte d'une démocratie de la convoitise exercée directement, en manipulant, ou indirectement, en étant manipulé, par le peuple et par les dirigeants sur chacun. On peut également lire ce mot « Mem Tzadé Resh », soit le but du mental humain, tant en termes de qualité que de défaut et de potentiel d'erreur. Et ce but ne provient que de l'expression de la personnalité égotique de Pharaon, qui représente l'archétype de l'étranger à la Torah, dont le corps est né au sein de Mitzrayim. Chaque être humain, quel que soit le lieu et l'époque de sa naissance, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, est un étranger, et ce sont la circoncision et le don de la Torah qui en font un enfant d'Israël. La dixième étape de la production d'un hébreu, la dixième plaie de la sortie d'Égypte, est que sa volonté de suivre la doctrine de la Torah soit plus forte que sa volonté de l'ignorer afin d'avancer sur le chemin de la vie par une autre voie, où les mensonges disparaissent en perdant de leur pouvoir, et où l'emprise de la sorcellerie s'affaiblit jusqu'à annihiler son influence. C'est un chemin aride et désertique, mais lumineux et joyeux malgré la tristesse et l'affliction. Et plus on avance sur ce chemin, plus on discerne le juste de l'injuste et le souhaitable du maléfique. En Devarim 32.12, il est écrit « L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. » Le mot « Hametz », qui signifie « oxydé », acide, vinaigre, pâte fermentée et levée, est composé des lettres Ret Mem Tzadé. C'est la créature formée par la destinée. Ce sont les enseignements par les symboles humains, la philosophie. Le mot matza veut dire épuisé, vidé, pressé, essoré, sans levain, azim, est formé des lettres Mem Tzadé E. C'est la formation de la destinée par le souffle. Ce sont les enseignements par les lois en vigueur, c'est-à-dire la science. Il est écrit dans le livre de Matthieu, au premier chapitre, verset 18, depuis le grec, littéralement mot à mot. De celui-ci maintenant, Jésus Christos, l'engendrement, de cette manière il a été réalisé. Tu étais promis pour elle, mère de lui. C'est la source. Mariam de Yosef, avant que tu sois associé avec elle, elle a obtenu dans ventre, au cours de la conception, ayant depuis pneuma agios. Le mot Mariam provient du mot hébreu qui signifie rébellion, amertume, affligé, qui provient du verbe être indocile ou réfractaire, désobéir, offensé, irrité, gravé. Une électrique des lettres Mem Resh Yud Mem serait formation du mental par le souffle spirituel originel. En effet, les affligés, les opprimés, ne peuvent poursuivre que se révolter contre le mal. Yosef, en hébreu, veut dire « Yud Evav-e » a ajouté des jours de vie. Et une électrique serait « Libération de la communication par l'alliance du Verbe ». Le verset 19 indique, toujours littéralement, « Yosef, cependant, l'homme brave, lui vertueux étant, alors je ne souhaite pas, elle tu déshonores. Il a désiré ignorant. Tu libères elle. » Il s'agit de libérer de l'ignorance, des lois de l'engendrement corporel, tout comme les petits-enfants sont ignorants des lois qui les ont créées. Au verset 20, toujours littéralement, « Par conséquent, cependant, ça, nous avons considéré. » Vois, messager ayant autorité en méditation, j'ai révélé ça à un enseignant, Yosef, fils de David. Ne pas t'alarmer, ne pas prendre peur, ne pas être effrayé. J'ai associé Mariam, elle, femme à toi, ça parce que dans elle nous avons engendré à partir de Pneuma. Elle est Agios. Au verset 21. Elle mettra au monde aussi un fils, et tu l'appelleras du nom, lui, Jésus, lui-même. Parce qu'il sauvera, lui, les gens, lui, de leurs fautes, lui. Au verset 22. Cette chose et tout, nous avons causé l'existence, de sorte qu'elle fut complète. Ça, nous avons fait par cela, ayant autorité grâce au prophète offrant la Torah. Les versets suivants indiquent de même. Vois, la jeune fille célibataire d'un ventre elle aura, et elle mettra au monde un fils, et ils appelleront du nom lui Emmanuel, qui interprète avec nous le Théos. Tu réveilleras, ce mot veut dire soulever, faire vibrer. Tu réveilleras aussi le Yosef de la torpeur spirituelle. Nous avons fait ainsi, ou nous avons préparé ainsi. Nous avons organisé ça, ou nous avons offert ça. Le messager ayant autorité, c'est-à-dire Yosef, et nous avons associé elle, femme de lui. Et nous l'avons pas fait connaître, elle, jusqu'à ce qu'elle mette au monde lui, fils de elle, le premier-né. Et nous l'avons appelé du nom, lui, Jésus. Lorsqu'Abraham est sauvé par la main puissante de Hachem, et que Moshe a traversé le désert, Yehoshua, fils de Nun, entre en Israël. Au verset 18, il est indiqué, toujours littéralement, « Et il venait parler, les Jésus. » C'est un pluriel, dans le texte grec. « Nous parlons nous-mêmes. J'enseigne. » Le « je », c'est celui qui écrit l'Évangile. « Il a été donné à moi toute autorité dans le ciel et dans le monde. Allez donc enseigner en tout temps les étrangers, immergeant eux dans le nom du Père, c'est-à-dire dans le flot des paroles de Torah, et le Fils, c'est-à-dire dans le savoir sur Jésus Christos, et dans le Agios Pneuma, c'est-à-dire dans le flot du souffle de Elohim. Instruisez eux, observez en tout temps ce que j'ai ordonné à vous. Alors vois, moi avec vous j'existe tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Rabbi Moshe Haim Lutzato indique dans Dahat Tevunot que la méconnaissance et le déni du schéma Israël comprend Israël Yud Evav-E et notre Elohim Yud Evav-E est unique, provoque cinq grands modes de pensée. Premièrement, l'idolâtrie. Il s'agit d'une part de ceux qui imaginent qu'un Dieu séparé de la création et possédant une volonté propre ignore les actions des humains, et d'autre part ceux qui imaginent que ce Dieu délègue à des divinités l'accomplissement de cette volonté afin de contrôler le monde des humains. Il s'agit ici de toute forme de théisme, avec un ou plusieurs créateurs. Deuxièmement, les deux pouvoirs. Il s'agit de ceux qui imaginent que deux autorités supérieures dirigent les événements, l'un responsable du mal et l'autre responsable du bien. Il s'agit ici de toutes les formes de théisme binaire. Troisièmement, la nature. Il s'agit de ceux qui imaginent que les affaires du monde suivent les lois de la nature créées par un créateur qui est distincte de ces choses elles-mêmes, et qui n'est pas ce qui dirige les mécanismes, les causes et les effets des phénomènes. Il s'agit ici de l'athéisme d'aucun créateur. Quatrièmement, le rejet d'Israël. Il s'agit des étrangers à la Torah qui imaginent que parce qu'Israël a fauté en abandonnant la connaissance de ce qui dirige l'univers et la vie, qu'ils ne savent pas ou ne comprennent pas, alors il n'y a pas de survie possible pour eux-mêmes avec l'aide de ce Dieu. Il s'agit du résultat des modes précédents lorsqu'on les rejette, qu'on a quelques notions vraies et fausses au sujet de la religion, qu'on ne connaît pas Hachem Elohim et qu'on ne veut rien savoir à ce sujet. Cinquièmement, la rébellion d'Israël. Il s'agit d'une part de ceux qui reçoivent la Torah mais qui ne la comprennent pas et qui décident de la rejeter, jusqu'à parfois imaginer qu'il serait bien de la transgresser afin de provoquer la colère d'un faux concept associé à la notion de Dieu, et d'autre part ceux qui, après la réception, décident de se renforcer par la magie et la sorcellerie, ainsi que par la connaissance, non connue pour être erronée, au sujet d'êtres surnaturels, prodiguant des services. Il s'agit ici d'une absence de émouna. Ce mot signifie foi ou confiance, constance, fidélité, loyauté, en la Torah. Une lettrique de ce mot, composée des lettres Aleph, Mem, Vav, Nun et serait espace de la formation de la communication de la vie qui respire. En effet, l'espace nécessaire pour la émouna requise pour l'action de la Torah se trouve à l'intérieur du corps au sein de chaque cellule, de chaque os, de chaque muscle et de chaque organe. C'est pour cela que les rabbins disent que seul le désir de Torah procure la connaissance de la doctrine et l'intervention de la main puissante de Hachem. La Torah ne parle pas de la vie en expliquant directement le monde matériel, mais en décrivant le monde correctement nommé immatériel. Car invisible au sens physique, à moins d'utiliser des appareils, alors qu'il façonne la réalité à l'aide de mots et d'images objectifs, d'une manière conceptuelle et parabolique, mais non symbolique, en nommant les choses telles qu'elles sont à l'aide d'une description non technologique, d'une manière à la fois précise et concise, transposée et homothétique, ou encore fractale, grâce aux lettres dont la forme et le sens. La Torah est au-delà des symboles qui n'ont qu'un pouvoir temporel, tandis que les lettres de Elohim sont intemporelles. La fille de Pharaon qui sauve Moshe des eaux du fleuve est la franc-maçonnerie, actuellement issue de la confédération des francs-germains qui ont notamment fondé la France. Un autre exemple de fille de Pharaon est le New Age, tant ancien que moderne, qui alimente ce fleuve en bien et en mal. Les livres d'histoire, quels qu'ils soient, nous montrent que n'importe qui peut faire n'importe quoi en bien ou en mal avec un symbole, afin d'hypnotiser et d'engrammer les groupes et les peuples, sur plusieurs générations, propageant ainsi l'aberration et donc l'esclavage direct comme indirect. Chaque génération exaspérée espère un nouveau monde meilleur. Chaque individu mécontent espère un nouvel ordre local comme global. Le symbolisme est une invention humaine pour représenter les modulations et les variances de la réalité et de l'imaginaire. Tout symbole, tout mythe et toute histoire est un piège pour le mental, que ce soit pour le magistère comme pour le peuple. Les symboles sont issus de Mitzrayim où règne l'esclavage de l'ignorance. La sortie de Mitzrayim a lieu lorsque ses habitants se libèrent des signes, et le seul moyen paradoxal pour réaliser cela est de connaître les illustrations. Consommer du pain azim sans levain ou hostie est associé à l'effet du chevalier rose-croix issu du 18e grade franc-maçon du rite écossais ancien et accepté. C'est le symbolisme du pélican qui nourrit ses petits avec le sang de ses souffrances placées sous la couronne spirituelle de la royauté du cœur. La couronne symbolise la force de volonté qui est la faculté d'exercer un libre choix grâce à la logique. Le compas symbolise la maîtrise des désirs grâce à la volonté. La rose symbolise l'amour soumis à la volonté. La croix symbolise le pain de l'esprit, ou ce qui nourrit la pensée, et le vin de l'âme, ou ce qui étanche l'émotion, qui sont ainsi harmonisés dans l'effort. Les petits sont les élèves, les disciples, les serviteurs et les ennemis. La vibration azurée de la respiration christique Shah fait sortir de l'esclavage grâce à l'activation de la force nerveuse via la moelle épinière, et grâce à la circulation de la puissance sanguine via l'artère pulmonaire, ce qui aligne le champ vital humain de haut en bas pour revenir au sommet du crâne, formant ainsi un œuf aurique dont le centre est un vortex électromagnétique au point de croisement thymique qui approvisionne les organes. Le mot grec « thymos » signifie « âme ». L'organisation médicale moderne affirme que cet organe est mystérieux, que son rôle est inconnu, à l'exception de la maturation des cellules immunitaires et qu'il dégénère après la puberté. L'agneau pascal égorgé à Pessah et âgé d'un an car il correspond à l'année qui vient de s'écouler et après laquelle on effectue un nouveau saut par-dessus la maison de Pessah. Le récit de la scène indique que le corps, la force nerveuse qui anime le corps, est comme du pain qui se mange, et que le sang, la force corporelle qui est animée, est comme du vin qui se boit. Le symbolisme de la croix représente les éléments suivants. La verticale, c'est le flux nerveux de la moelle épinière. L'horizontale, c'est le flux sanguin de l'artère pulmonaire. C'est le blanc et le rouge de l'alchimie. C'est le pain et le vin de l'Eucharistie. C'est le corps et le sang du Christ. Le croisé, c'est le cœur. L'épée, c'est l'âme de la parole et de la plume du Verbe. Le sacrifice, c'est respirer et vivre. Le Graal, la crèche, c'est les entrailles. L'âne et le taureau, c'est le foie et la rate. La coupe du Graal, c'est le bassin du diaphragme. Le livre écrit en dedans et en dehors est la molécule de l'ADN. La naissance de Jésus est celle de la nouvelle conscience. Le souffle de Elohim allume la lumière dans l'âme. La notion de sang pur a été dénaturée au fil des âges. L'expression « Saint Graal » proviendrait de « sang réal » en médiéval, soit « sang réal ». Réal étant une forme du mot « régal ». On obtient « sang royal ». Ce sang est considéré comme spécial et il relève d'une disposition à la science royale. Le terme sanskrit « arya », d'où provient le mot « arien », signifie « noble ». Maître, dévoué, fidèle, attentionné, qui sert avec loyauté, au sens de élu et de dirigeant, c'est-à-dire de clergé en termes de sélection, d'instruction et de fonction. Cela n'a rien à voir avec la race ou la nationalité, mais avec la faculté, avec l'éducation, avec une formation et avec un emploi dédié à servir le bien-être et l'évolution du groupe, du peuple et de l'espèce. Cela a donc à voir avec la survie. C'est comme avec l'expression « djihadiste ». Qui en arabe ne veut pas du tout dire terroriste, ce mot signifie « celui qui fait un effort avec abnégation pour s'améliorer et pour combattre le mal en étudiant les lois en vigueur de la bienveillance, de la compassion, de la justice, de la réparation. Ceci afin d'agir de manière correcte et efficace. » D'un point de vue fondamental et scientifique, Noël est le jour le plus court où le soleil expose peu son influence photonique au profit de la réfraction lunaire. Hormis lorsque ce jour coïncide avec la nouvelle lune, où, au cours de cette nuit, seul le rayonnement cosmique atteint la surface de la Terre et ses êtres vivants. Le mot Noël provient du grec Neos Helios, désignant le nouveau soleil. Il peut être rapproché des termes nordiques Jol ou Yule, provenant du proto-germanique Yevla ou Yeka, ayant un sens de joie et d'allégresse. Le personnage imaginaire et idolâtre du Père Noël serait une évolution de Santa Claus et du lutin Nis, ainsi que d'Odin. Odin est un mot scandinave signifiant non pas Dieu par altération du sens, mais poète, chanteur, parolier, écrivain, scribe. Le mot Odin signifie causer l'effervescence. Ce sont les mauvais scribes qui fabriquent les idoles et qui les entretiennent. Le mythe du Père Noël ne sert qu'à apprendre aux parents à mentir à leurs enfants afin de créer leur première perte par trahison, ce qui est une grande source d'aberration pour la société et pour le peuple. Non parce que c'est une fête d'espoir, de rêve, de bonté et d'offrande, mais parce que c'est une farce relevant de la duperie et du mépris. Toute géométrie dans le monde est basée sur deux choses, la mesure et la proportion. Ce n'est pas la mesure qui est divine du point de vue de la création, c'est la proportion, car absolue est dénuée d'unité de mesure, c'est-à-dire dénuée de relativité. C'est d'ailleurs la proportion géométrique et spirituelle qui attire les hommes et les femmes, et qui est le secret de l'art, et non pas la mesure de ces choses qui est source de discorde et de désaccord. La symétrie de l'angle et la portée du vecteur est la clé. Le cercle, c'est la hauteur de la pyramide, c'est le ciel. Le triangle est la face de la pyramide, c'est l'homme. Le carré est la base de la pyramide, c'est la terre. Ce sont les trois figures fermées fondamentales de la géométrie des grandeurs. 2. Le cercle, le sens du bien et le sens du mal. 3. Le triangle, le corps, l'âme et l'esprit, ou le ventre, le cœur et la tête. 4. Le carré, la terre, l'eau, l'air et le feu, ou le carbone, l'oxygène, l'hydrogène et l'azote. Tout problème humain est relatif aux mesures. Tout problème divin est relatif aux proportions. Le vecteur est ce qui organise la mesure de la proportion. Le vecteur se définit par son origine et sa destination. Le compas est ce qui proportionne le cercle et la symétrie. L'équerre est ce qui mesure l'angle et la distance. Le souffle, c'est-à-dire la vibration, est ce qui engendre le mouvement. La semaine de 7 jours avec ses noms, son ordonnancement et son point d'origine ne sont que des arbitraires administratifs. En effet, la semaine commençant le lundi à un instant donné du passé et allant jusqu'au dimanche en nommant les jours selon les 7 planètes des anciens astronomes, quels que soient les jours de repos, est une semaine placée sous l'influence de l'astrologie, qui est une influence décidée et orientée par l'humain. Le seul référentiel absolu d'un être humain indiqué par la Torah est le jour de sa naissance. Il est écrit en Béréchit 2.2 et 3 « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » En Shemot 16.29, il est écrit « Considérez que l'Éternel vous a donné le Shabbat, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour le pain de 2 jours. Que chaque homme reste chez soi, que pas un homme ne sorte de son endroit au 7e jour. » Et en Shemot 23.12, « 6 jours tu feras tes activités, et au 7e jour tu te reposeras, afin que ton taureau et ton âne aient du repos, que le fils de ta servante respire, et l'étranger. » Le Shabbat personnel est un des Shabbats prescrits par la Torah pour se souvenir du 7e jour après la naissance, qui est comme la fin préparatoire à la répétition du cycle engendré lors de la fusion des gamètes au cours du 1er jour qui est un soir et un matin, car l'œuf fécondé, devenu blastocyte, s'accroche à l'endomètre de l'utérus lors du 6e. Et après tant d'efforts énergétiques, il se repose. Il est précisé être pour tous, hommes, femmes et enfants, car le mot employé est en fait « Aleph Yud-Shin » et signifie « quelqu'un ». La circoncision des mâles, la Brit Mila, est alors réalisée le 8e jour, après la naissance. Jusqu'à la naissance, l'être ne perçoit que les perceptions et les expressions de sa mère. Selon des études récentes, il faut plus de 90 décibels pour que les sons traversent les tissus et les liquides, et il passe 90% de son temps à endormir. La circoncision est l'alliance humaine au savoir. C'est un signe distinctif par rapport aux animaux qui est lié à la connaissance scientifique de la vie et de l'univers. En Romains 2.25-29, il est écrit « La circoncision est utile, si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision ? L'incirconcis de nature, qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision ? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Il est ainsi demandé à l'homme de ne pas sortir ce jour-là, le jour du Shabbat, de ne pas sortir de la maison de briques comme de cellules, y compris téléphoner, surfer sur Internet ou écrire un courrier à quelqu'un du dehors, ainsi que de cesser les activités physiques et intellectuelles, sauf en cas d'urgence. Le soir, c'est le coucher du soleil, lorsque l'être se couche et s'endort. Le matin, c'est le lever du soleil, lorsque l'être se réveille et se lève. Le jour du Shabbat se compte en jour solaire, contrairement aux autres jours des célébrations, les fêtes de la Torah, qui se comptent selon les jours de la lune, et selon les levers et les couchers de la lune. Par exemple, pour une personne née entre le coucher du soleil le dimanche et le lundi soir, son Shabbat est du dimanche soir au lundi soir. Ceux qui ont le même Shabbat et qui le sanctifient forment une égrégore planétaire distincte. Mais la Torah précise le jour, comme dans les 7 jours de la Genèse, et le jour du repos. Est-ce que cela inclut le soir et la nuit qui précèdent le matin et la période lumineuse du jour? La réponse est aussi triviale qu'élémentaire et étonnante. Le jour, c'est ce qui va du matin au soir. Cela voudrait donc dire qu'on peut travailler et sortir le soir précédant le jour du Shabbat qui commence en fait au lever du soleil, l'aube, et qui se termine au cocher du soleil, le crépuscule. Pour quelqu'un né de nuit, son Shabbat sera le lendemain, comme s'il était né le jour suivant. Telle est la miséricorde du Créateur qui demande peu pour donner beaucoup. Il est écrit en Shemot 16.22 que le Shabbat commence le lendemain matin du sixième jour, au cours duquel il est demandé de préparer la nourriture pour 2 jours et de la garder jusqu'à ce moment. Le sixième jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homers pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le Shabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. » Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devint point infect, et il ne s'y mit point de ver. Le but est de reposer les cellules et les mécanismes génétiques mis en œuvre par la volonté humaine au cours des 6 jours. La nuit est la période de réparation des mécanismes inconscients. Le Shabbat est la période de réparation des mécanismes conscients. Avec un jour de repos différent pour chacun, les affaires humaines et l'aide tournent chaque jour comme le reste de l'univers et des astres. Il est écrit en Shemot 31.13 à 16 « Parle au fils d'Israël en disant « Vous garderez mes Shabbats, car il sera un signe entre moi et vous pour vos générations, pour savoir que je suis Hachem qui vous sanctifie. Vous observerez le Shabbat car il vous est chose sainte. Celui qui le profane, mourir, il sera mis à mort. Car quiconque fait un travail ce jour-là, cette âme-là sera retranchée du milieu de ses peuples. Pendant 6 jours sera fait le travail, et le 7e jour est le Shabbat, chose sainte, pour l'Éternel. Quiconque fait le travail le jour du Shabbat, mourir, il sera mis à mort. Les enfants d'Israël garderont le Shabbat pour faire Shabbat pour leur génération comme une alliance pour toujours. » Il est écrit en Devarim 5.12 à 15. « Observe le jour du repos pour le sanctifier comme te l'a ordonné l'Éternel ton Dieu. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Et le 7e jour est le jour du repos de Hachem ton Elohim. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton taureau, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte et que Hachem ton Elohim t'en a fait sortir d'une main forte et d'un bras étendu. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de faire le jour du Shabbat. » Mourir, mis à mort, veut dire que l'âme sera amenée à connaître, à comprendre et à suivre le Shabbat. Sinon, la vie ne sera pas prolongée par Dieu et il ne sera pas une force motrice d'Israël. Il sera retranché, mis à part, pour lui parler à lui, pour lui enseigner à lui, pour le lapider lui et pas un autre. Les règles principales du Shabbat sont de ne pas créer et de renoncer à l'effort, c'est-à-dire sanctifier Hachem Elohim, qui est la source de notre existence, ne pas sortir, ne pas travailler, reposer le corps, les émotions, le mental et l'esprit. Les rabbins enseignent que ne pas travailler signifie ne pas réaliser d'action constructrice, quelque chose qui crée. La création est faite durant 6 jours de travail, le 7e jour, rien ne doit être créé. Le Shabbat est un des principes fondamentaux des religions abrahamiques qui le fixent quelquefois du vendredi soir au samedi soir ou le dimanche. C'est ce qu'on appelle le Shabbat de groupe. Le Shabbat est la force du peuple d'Israël. C'est la force du temple de l'être humain, le corps. C'est la force du temple du groupe et du lieu de célébration, nommé synagogue, église, mosquée, temple, minyan, korum, groupe de prière ou autre, couramment situé au sein d'un bâtiment car c'est pratique, ça protège des intempéries et c'est un point de concentration statique qui est ainsi créé et entretenu. On peut remarquer que le mot Shabbat, qui est composé des lettres Shin, Bet, Tav, indique ce qui suit. Shin, c'est l'avant-dernière lettre de l'alphabet. Bet est la deuxième, et Tav est la dernière. La somme est 300 plus 2 plus 400, égale 702. 7 plus 0 plus 2 égale 9, soit la lettre Tet, qui signifie le bouclier et la beauté, le refuge, le foyer, la puissance et l'immortalité. 7 est la valeur du quart du cycle lunaire. C'est le nombre de couleurs de l'arc-en-ciel, le nombre de notes de la gamme diatonique, le nombre de chakras. C'est la valeur de la lettre Zayin, la nourriture, l'équilibre, le fils. Le Shabbat du couple est associé au Shabbat du groupe. D'après la Torah, une fille suit le Shabbat de son père, même une femme qui loge chez son père. Lorsqu'une femme se marie et va loger avec son mari, elle suit le Shabbat de son mari, tout comme son mari va suivre son cycle menstruel. L'allumage des bougies représente la sanctification du Shabbat et est généralement effectué par la femme, car c'est elle qui éveille l'amour, qui est le fondement du couple, et donc de la société. Non en tant que charge, mais en tant que mérite. La bougie placée à gauche devant soi est celle du Kadesh, le sacré, le sanctifié, l'illumination, la fusion et l'union, le regard du seuil et le déroulement de la force vitale du foyer. Celle de droite est le Shabbat, la force vitale mise en mouvement, devenant puissance de la demeure, aboutissant à la fusion du couple homme-femme, les témoins et disciples qui vont par deux. Faire Shabbat le samedi ne prodigue pas tous les bienfaits du commandement, seulement une partie. Il ne semble pas y avoir d'indication dans la Torah que le Shabbat soit un jour calendaire commun, tandis que les indices amènent à déduire que ce jour est celui de la naissance, ainsi placé en rythme avec les cycles biologiques. Ainsi, si tout le monde fait Shabbat communautaire tel jour, il est nécessaire de respecter publiquement l'usage commun, et si on veut également faire Shabbat la veille du jour de naissance, alors c'est un mérite. Les symboles sont des représentations archétypales d'événements et de structures géométriques temporelles. Ce sont des codes qui sont comme quelque chose de réel ou d'imaginaire. Le symbolisme, notamment religieux et franc-maçonnique, correspond à de la structure statique figée dans le temps. Les symboles sont les éléments de la matière, de l'énergie, de l'espace et du temps qui forment l'univers sans mouvement et la vie sans animation. L'agencement des symboles forme un code d'exécution. C'est une instance de la fonction, c'est l'objet, c'est le temps immobile. Il n'y a rien de plus attractif que le mystère. Les symboles sont des mystères pour les non-initiés, tout comme il est un grand mystère mutuel dans le fait que le mâle et la femelle sont différents. Les fonctions sont des correspondances archétypales de phénomènes et de mécanismes arithmétiques intemporels. Ce sont des lois qui sont exactement quelque chose de réel ou d'imaginaire. Les alphabets sont une représentation de la fonction. Ce ne sont pas seulement des symboles. Les lettres sont les ordonnanceurs de l'impulsion et du mouvement qui organisent la structure. C'est la loi de la matière, de l'énergie, de l'espace et du temps qui met en mouvement l'univers et qui anime la vie. L'agencement de fonctions forme un programme logiciel. C'est une abstraction de la structure. C'est le type. C'est de l'intemporel déterminé. Les lettres contiennent la fonction du symbole. Les langages créés par Dieu sont les langages de la création, c'est-à-dire toute forme d'expression basée sur les codes génétiques et cellulaires. Par extension, on peut appeler langage divin ceux écrits et parlés par les humains qui correspondent à ces choses. Les langages créés par les humains sont les langages mis au point par leur volonté et qui sont indépendants du langage de la nature, même s'ils peuvent parfois correspondre partiellement à des mécanismes génétiques. Les hiéroglyphes qui se comptent par centaines ne sont pas des lettres, ce sont des symboles qui relèvent de l'art géométrique du concept structurel. C'est la section d'une fresque qui est une fonction dans laquelle sont incluses les sous-fonctions qui contiennent les symboles du code et des données. Les choses telles que la peinture murale et le papyrus sont un processus, c'est-à-dire un programme avec un sous-programme. Parler de formule serait trop réductif, mais permet de comprendre l'usage. Le mot grec « tot » fait référence au mot égyptien « djéouti », qui désigne l'archétype conceptuel de la source des scribes qui distingue la matza du rametz. La lettre, c'est de l'espace. Le symbole, c'est de l'objet. Un espace contient des objets. Un objet occupe des espaces. La langue utilisée par la voix du chant est l'instrument de musique. La voix elle-même est la tonalité. Il existe deux types d'alphabets, internes et externes. Les alphabets internes sont une représentation de l'esprit en tant que somme arithmétique vectorielle des lois de la génétique exprimées événementiellement au sein des cellules et des symbiotes tels que les bactéries. Ils agissent en tant que cause du manifesté. Les arts, les cultures et les métiers proviennent de là, de l'animation cellulaire. Il y a deux types de causes. cause forte et cause faible. Les lettres hébraïques correspondent aux chromosomes qui sont le programme et les données les plus importantes. C'est la pensée, la cause du mouvement interne. Les lettres sanscrites, ou phonèmes au nombre de 48, soit 3 voyelles et 35 consonnes, correspondent aux ARN qui sont des unités d'exécution d'instruction et des unités de codage protéique. L'alphabet arabe, composé d'une douzaine de formes calligraphiques fondamentales, correspond à certains mécanismes de contrôle de l'expression génétique effectuée via des ARN dédiés. Il en est de même pour l'écriture hiératique, qui n'est pas vraiment une simplification des hiéroglyphes, puisqu'elle correspond à des mécanismes particuliers d'expression et de régulation agissant sur les ADN et sur les ARN. C'est l'émotion, l'effet du mouvement interne. L'écriture kabbalistique et le cunéiforme correspondent à des composants électroniques du mental génétique qui agissent géométriquement par l'intermédiaire de la perception visuelle cérébrale via l'œil. L'alphabet énochien, nommé également langue des anges ou ophanem, ce mot veut dire roue qui tourne sous la direction des archanges Raziel. Cet alphabet énochien correspond à l'activité vibratoire des membranes mitochondriales et plus particulièrement de leurs protéines. C'est l'effet intermédiaire de la pensée, le médiateur qui coordonne le mouvement. Les alphabets externes sont une représentation de la force vitale qui est en relation avec la manifestation corporelle de l'activité cellulaire, c'est-à-dire son écoulement extérieur au sein de l'univers, tels que les gestes et les flux visibles et invisibles. Ils agissent en tant qu'effet de la manifestation. Nous avons l'effet direct. Un exemple sont le latin, le grec et les sinogrammes qui correspondent à des mouvements corporels. C'est l'effort de l'effet de la cause ou activité. Et l'effet indirect. Un exemple sont les runes nordiques qui correspondent à des concepts de la vie passée, présente et future d'un être doué de conscience et de planification. C'est le résultat de l'effet de la cause ou karma. Il est écrit en Vaikra 19.18 « Vous ne ferez pas d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez pas de figure sur vous. Je suis l'Éternel. » Il est ainsi demandé de ne pas faire de marque sur le corps pour deux raisons. D'une part, ce sont généralement des signes humains et non divins, et comme pour la numérologie humaine, peu importe ce qu'il représente, c'est l'humain qui décide de marquer la peau de ces signes. Et d'autre part, les marques faites à l'aide de substances sont d'une manière ou d'une autre nocives et toxiques pour l'organisme et pour le système nerveux. Donc si quelqu'un porte des tatouages ou encore des habits marqués, c'est son affaire et on ne doit pas en tenir compte. En Devarim 6.6 et 9, il est écrit « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage. » Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme un fronton entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. C'est ce qu'on nomme la Torah orale, parler de la doctrine, la discuter, la questionner, l'investiguer afin d'en connaître les sens qui sont les mitzvot et de la transmettre. La doctrine demande de parler en permanence des lois de la vie, du développement embryonnaire, des mécanismes génétiques, du fonctionnement de la cellule, des unités d'attention, des interactions et des flux internes et externes, de l'amour et de la compassion, de l'éthique et de la justice, du bien et du mal, des justes et des méchants, des gens honnêtes et des criminels, etc. C'est parler de la grandeur de Hachem Elohim, malgré les abominables hommes et femmes de la terre et des cieux. C'est parler de l'immensité extraordinaire, remarquable et merveilleuse de l'univers et de la vie qui existe et dont on peut parfois prendre conscience à chaque instant qui s'écoule.